Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Radio Grenouille est en ce moment en direct du 25 rue de la République dans le 2e arrondissement de Marseille. Nous sommes dans une épicerie éphémère qui vient d'ouvrir ses portes la semaine dernière. Un projet porté par le restaurant Les Grandes Tables et par le fonds épicurien Provence durant tout le mois de septembre. Alors le but c'est de rassembler une trentaine de produits de producteurs locaux dans cette épicerie qui accueille aussi donc trois émissions de radio. Celle de la semaine dernière que vous pouvez retrouver sur le site de Radio Grenouille, celle de ce soir jusqu'à 19h30 et celle de mercredi prochain, le 20 septembre. Le midi et le soir, du mercredi au samedi, le chef Emmanuel Perraudin vous propose aussi de déguster ses plats et ses mezzés. Alors pour ce deuxième plateau radio assuré par Sébastien à la technique que je salue, nous allons aborder le sujet de l'alimentation bio et locale. Alors à première vue, le bio c'est un label. En France, c'est en 1964 que Nature et Progrès réglementent la première fois un label. Puis 20 ans plus tard, en 1995, le ministère de l'Agriculture crée le label AB que tout le monde connaît maintenant. Et depuis 2009, ces critères sont alignés sur ceux du label bio européen, symbolisé par la petite feuille verte étoilée. Donc en gros, le cahier des charges pour ces labels, c'est sans engrais de synthèse ni pesticides de synthèse et sans traces d'OGM. Mais alors ce label bio peut paraître parfois trop contraignant pour certains petits producteurs ou au contraire pas assez pour d'autres, et les labels hors Union européenne ne sont pas soumis au même cahier des charges. Alors surtout, le bio ou la bio, si l'on parle de l'alimentation, ne peut pas se résumer à un logo ou un label. Manger de saison des produits non raffinés, limiter notre consommation de viande, manger local apparaissent comme autant d'autres critères indispensables. Et c'est justement cette question du local dont on va s'intéresser aujourd'hui. Faut-il y voir un complément du bio ou un critère supérieur, voire presque antagoniste, tant de produits bio peuvent aussi venir de très loin parfois. Alors aussi, on abordera la question du business du bio, de son accès au plus grand nombre et qui interroge aussi son imbrication dans un système marchand plutôt libéral. Donc quel sens politique donner à une production, à une alimentation et à une gastronomie bio ou locale ? Alors pour tenter de répondre à toutes ces questions et pour j'espère en soulever d'autres, 5 invités sont avec moi ce soir jusqu'à 19h30. Alors Jean-Baptiste Alfonso, bonjour. Alors vous êtes producteur, maraîcher, vous utilisez le système de la permaculture.
Tout à fait.
Alors pour définir peut-être pour les novices la permaculture en quelques mots.
En fait on s'inspire des écosystèmes naturels et plus particulièrement de la forêt, qui est résiliente, qui a besoin de personne, personne ne la laboure, personne ne lui amène d'amendement, elle se débrouille un peu toute seule, et donc on essaie de trouver, et elle est très diverse, diversifiée, multiple, et donc on essaie de reproduire ça dans les champs.
Merci pour cette définition. Pierre Janetti, vous êtes chef, avant vous étiez au restaurant Le Grain de Sel, et maintenant vous portez un nouveau projet qui s'appelle La Fabriquerie, qui serait une boutique traiteur.
Oui, une boutique traiteur, ce ne sera plus un restaurant, mais on continuera à cuisiner. Encore mieux. Et petite épicerie et cave à vin avec une sélection de vins naturels plutôt locaux. Et voilà.
Voire bio parfois aussi.
Oui, voire bio. Après, c'est clair qu'on n'est pas trop attaché pour l'instant.
On y reviendra. Michael Latz, bonjour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maire de Corrence, un magnifique petit village du Var, au bord de l'Argence, qui est le premier village bio de France, donc depuis 1997, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que près de 95% des terres agricoles sont cultivées en bio.
Voilà, ça fait plus de 20 ans que l'ensemble des paysans de Corrence, aussi bien des viticulteurs que des maraîchers que des éleveurs, sont en bio.
Merci d'être là, d'avoir fait le trajet. Jérôme Laplane, bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Vous êtes producteur également et membre de l'ADR.
Voilà, je suis maraîcher en bio, patrimoine d'ici, Roquevert. Et je suis membre de l'ADR et je suis membre aussi des AMAP de Provence, qui propose de mettre en place des systèmes de paniers hebdomadaires en contrat avec les consommateurs.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'ADR, c'est une association qui regroupe des paysans et des paysannes et qui sont membres en majorité de la Confédération Paysanne, souvent.
Oui, au départ, c'est la Confédération Paysanne qui a mis en place cette association. Aujourd'hui, l'association a pour but d'aider à l'installation des gens qui sont hors cadre familial, de proposer des marchés paysans, donc on y reviendra, on est en plein dans le cœur du sujet. On gère actuellement 8 lieux de marchés paysans dans les Bouches-du-Rhône. Et puis il y a beaucoup de formations pour des porteurs de projets ou des paysans installés qui souhaitent se perfectionner sur un système ou un autre.
Merci. Et enfin, je salue Richard Abba. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. Apiculteur et membre du réseau AgriBio 13. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Vous confirmez. Et d'ailleurs, la semaine prochaine se lance la semaine Manger bio, manger local, auquel participe AgriBio 13. Et vous également. Merci à vous cinq d'être ici. Donc, un plateau très masculin. Peut-être que c'est représentatif de vos professions respectives, je ne sais pas. On verra, peut-être. Non, pas vraiment. Alors, donc il y a 3 producteurs au moins autour de la table avec moi. Vous ne faites pas tous du bio comme on l'a vu. Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour vous faire du bio ? Est-ce que c'est un label ? Est-ce que c'est le label ? Ou est-ce que finalement c'est plus une philosophie de pratique ?
Enfin, je pense que ça part d'une démarche. Libre à vous d'accepter ensuite d'être encarté ou d'appartenir à une communauté. Et moi, par exemple, j'en fais pas partie, je travaille de mon côté. J'ai un rapport de confiance avec les gens avec qui je travaille, qui croient à ma démarche. Et voilà. Mais après, ça peut être aussi très utile d'être justement dans une communauté, d'être aidé pour justement porter des projets, etc. Et d'avancer comme ça.
Moi, je pense que c'est important d'être en bio et certifié parce que c'est un peu le seul regard que les consommateurs ont sur ce qui peut arriver de basique le mieux possible. Après, il y a des failles sociales dans l'agriculture biologique, mais au niveau respect des non-intrants de pesticides chimiques de synthèse, c'est les gens se réfèrent à ça. Donc, pour moi, c'est important de participer à ce sujet.
Est-ce que c'est complémentaire de faire du bio d'autres pratiques ?
Oui. Le bio, ça ne suffit pas. Je parlais tout à l'heure de social. Le bio ne s'occupe pas du social. Le bio s'occupe simplement de vérifier qu'il n'y a pas de pesticides de synthèse utilisés, mais ne participe pas du tout à la biodiversité, ne participe pas à des techniques culturelles alternatives. Enfin voilà, tout ça ne rentre pas dans le cadre du cahier des charges européen. On est soumis au cahier des charges européen. Ma limite sur le bio, ça sera que, au niveau européen, les lobbying sont très forts et qu'il faut rester vigilant, nous, des paysans. Pour l'instant, moi, j'accepte encore le AB et j'en suis très content. Si jamais il y a des dérives, je partirai sur un autre cahier des charges.
Jean-Baptiste, vous aviez le label bio avant ?
Non, je ne l'ai jamais eu. Je ne l'ai jamais eu, mais parce que c'était par choix. Parce que j'ai eu à travailler, par contre, parce qu'à une époque, avant de faire du maraîchage, je travaillais dans la vigne. Je me suis occupé de domaines qui étaient bio. Et donc, on avait pour la certification, on avait des contrôles réguliers, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était quelquefois un petit peu intrusif, même s'ils sont là pour faire leur travail, mais des fois, ils dépassaient un peu leurs prérogatives.
Dans quel sens intrusif ?
Dans le sens où ils voulaient peut-être, ne pas en savoir trop, mais commencer à vous donner des conseils sur ce que vous devriez faire, sur votre façon de cultiver, etc. Vous avez une piqûre de mouche sur les oliviers. Je pense qu'après, c'est à tout un chacun de faire comme on veut, dans la mesure où on respecte, eux, leur cahier des charges, ils n'ont pas à rentrer là-dedans. Si on décide de traiter, pas traiter, etc. Moi, je préfère ne pas traiter du tout. Pour le coup, il n'y a pas d'intrant, il y a zéro pesticide, il y a zéro herbicide et il n'y a rien du tout. Ni soufre, ni cuivre, rien.
Michael Latz.
Oui, alors moi je voudrais préciser, vous avez dit que je suis maire de Caen, je suis vigneron aussi.
Oui, pardon.
Donc c'est pour moi important de le souligner.
Bien sûr.
Et pour moi, il y a le bio et la bio. La bio, c'est une vision holistique, pas que du cahier des charges de l'AB, mais c'est une vision holistique et de l'espace agricole et des pratiques sociales notamment. Le bio est l'application pure et simple du cahier des charges bio. Et moi, je pense que par rapport à ce qui a été dit, c'est hyper important en France de garder une certaine vision de l'agriculture biologique telle qu'elle est pratiquée, parce que j'ai eu l'occasion d'être invité souvent en Allemagne. Et là-bas, c'est le bio. Et le bio est en train de devenir un truc industriel. et qui, avec les mêmes avatars que l'agriculture industrielle, bon, sauf qu'elle est peut-être un peu plus respectueuse de l'environnement, mais elle n'est absolument pas obligatoirement respectueuse sa responsabilité sociale, et elle est surtout prise par la grande distribution. Donc je suis assez d'accord avec l'idée qu'il faut être vigilant sur cette vision-là de l'agriculture familiale respectant. Moi, je suis très pour qu'il y ait un logo AB, peu importe, parce que le consommateur, je veux dire, on vit dans un monde très complexe, et faisons les choses simples. Alors, on peut discuter, pinailler sur le niveau du AB par rapport à l'européen, il y a des discussions sans fin là-dessus, elles sont intéressantes, il faut être vigilant, il faut être militant, mais par rapport au consommateur, le cahier des charges, ce qui est tout à fait normal, c'est que nous, on doit être payé pour être contrôlé, pour ne pas polluer. Et ceux qui polluent, ils doivent pas payer. Mmh. Ça, c'est intellectuellement très choquant.
Mmh. Richard Abat, peut-être sur la question du bio, du label.
Oui.
Vous êtes apiculteur.
Voilà. Donc, aussi, dans le miel, il y a un cahier des charges. C'est plus difficile parce que fréquemment, on nous dit, mais le miel, c'est toujours bio. Ben, oui, normalement, oui. Les abeilles, oui, mais elles vont où elles veulent, bien sûr, mais elles sont comme nous. Hein. Si elles peuvent trouver à 10 mètres à manger, elles ne vont pas faire un kilomètre, quoi qu'elles puissent faire 3, 4, 5 kilomètres. Alors, moi, je fais une petite remarque. Depuis quelques années, on parle du miel dans les villes, du miel béton. Chaque commune y va, ou chaque entreprise installe des ruches sur le toit en disant, ben, moi, je suis bio, enfin, je fais quelque chose, je mets des abeilles sur le toit et on fait du miel. C'est vrai qu'à l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille à Paris, ils font du miel en pagaille parce qu'il y a des jardins qui sont arrosés. Et on nous dit que ce miel est impeccable, qu'il n'y a aucune trace. Alors moi, je suis tenu d'être à 3 km d'une centrale, 3 km des villes, 3 km d'un autoroute, 3 km d'une décharge, d'une culture traitée. Donc à quoi ça sert pour nous d'avoir un cahier des charges bio si le miel qu'on fait en ville est aussi propre que le nôtre ? Voilà. Bon, ceci dit, c'est bien quand même, ça fait prendre aux gens conscience que l'abeille est infusible, c'est infusible de l'environnement, ça fait plusieurs années que ce fusible il chauffe, qu'il saute, mais on remonte le disjoncteur, puis on le remonte, puis on le maintient en haut. Là, elles sont en train de nous montrer que ça chauffe drôlement. On a de plus en plus de mal, on constate un changement depuis 5-6 ans, les saisons changent, et ça fait 2 ans qu'on est obligé de nourrir nos ruches au printemps, au mois d'avril, parce qu'il fait froid. Bon, vous me direz, il peut faire froid certaines années, mais là maintenant on a du froid, du chaud, il n'y a plus d'hiver, il fait plus froid, donc la nature, les arbres ont besoin du froid l'hiver pour la germination, et on se retrouve avec des abeilles qui ont une baisse aussi dans leur panier à manger. Il y a une perte de biodiversité parce qu'il fait de plus en plus sec. Vous voyez des chênes qui meurent dans les montagnes, même dans les montagnes, dans le Mercantour, j'y étais il y a 3 semaines, il y a des chênes qui meurent. Donc ça, c'est quand même significatif. Il y a moins de fleurs à butiner, moins de biodiversité. C'est comme si nous, on mangeait que des patates ou que des pâtes ou que des tomates tout le temps. Ben, si on ne mange pas varié, on sera moins bien, en bonne santé. Voilà. Donc nos abeilles, elles nous montrent actuellement qu'il y a souffrance. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi les lignes de haute tension, il y a les Wi-Fi, il y a les ondes, il y a toutes ces ondes hyper haute fréquence avec nos 3G, 4G, bientôt 5G. Elles en prennent aussi plein la tête. Il y a aussi la couleur, il y a aussi, j'en profite, hein, il y a la lumière aussi qui change. La lumière n'est plus la même parce qu'on voit des traces, des traînées d'avions dans le ciel qui ne sont pas toujours normales. Normalement, quand un avion il est passé, la traînée blanche, elle se dissout automatiquement. C'est de la condensation. Puis vous voyez au-dessus de la région des traces dans tous les zigzags. Le matin et l'après-midi, le ciel est gris. Et la lumière change, et les insectes se repèrent grâce à la lumière. Donc quand la lumière change, les insectes perdent leur sens d'orientation. Ça, c'est grave aussi, parce qu'elles n'ont pas le même spectre lumineux que nous. Elles voient des choses qu'on ne voit pas, mais c'est important pour elles.
Jean-Baptiste, Jérôme, peut-être que ce sont des problématiques que vous connaissez bien.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce qui nous relie un peu tous autour de la table, c'est que je pense que le respect du consommateur, de ce qu'on donne à manger au consommateur, et qu'il ingère et qu'il le garde toute sa vie les matières étrangères, on les garde dans le gras, ça passe dans le lait des enfants, enfin, dans le lait maternel, quand les mères allaitent. Et je pense que tous, dans notre diversité de producteurs, on est tous conscients que le minimum qu'on puisse faire, c'est de mettre aucun pesticide dans les produits qu'on fait pousser ou qu'on élève, dans le respect du consommateur. C'est le minimum qu'on puisse faire quand on veut nourrir la population.
C'est très important ce qui vient d'être dit. Je pense que pendant très longtemps, on a appris aux paysans français, les agronomes, tout le monde, c'était de faire des très beaux produits, des très belles tomates, etc. On sait jamais, et qui empoisonnaient les gens. Et le rôle d'un paysan, c'est de nourrir les gens, c'est pas de les empoisonner. Et le jour où les syndicats majoritaires, les boîtes phytosanitaires comprendront qu'un paysan, son rôle, c'est de nourrir la population et pas d'empoisonner, et que c'est de sa responsabilité, et qu'il ne doit pas se laisser faire conditionner par les gens qui lui vendent des produits, ce jour-là, peut-être, on aura une inversion des choses. Et il faut que tout le monde réapprenne à dire on mange un produit sain, et le paysan qui l'a mis à disposition, il a la responsabilité de le mettre sain. Et ce n'est pas ça qu'on lui a inculqué dans la tête depuis 40-50 ans.
On va voir justement cette question de la production du bio et du local et d'une agriculture raisonnée par les producteurs, peut-être juste après la première pause musicale choisie par Jérôme Matteo, c'est Take It Easy, My Brother Charles.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor.
Take it easy, my boy.
Take it easy, my brother Charlie.
Take it easy, my friend.
Take it easy, meu irmão de cor.
Olha como o céu é azul, olha como é verde o mar, olha que sol bonito, Charles. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo.
Radio Grenouille, on est toujours au 25 rue de la République pour parler de l'alimentation bio et locale et de la production bio et locale avec 5 invités autour de moi. Merci encore d'être toujours là. Donc on parlait justement du label bio, du label non bio, de ce que ça représentait ou pas. J'aimerais qu'on parle maintenant de la production et de ce que ça veut dire pour un jeune producteur de s'installer en bio et en local ou du moins en agriculture raisonnée. Et j'ai récupéré un extrait de Bernard Lambert qui est un agriculteur, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, bon, qui est décédé depuis, syndicaliste agricole et à l'origine du syndicat la Confédération Paysanne. Donc il s'exprimait à ce propos en 1981.
Alors parlez-nous un peu de la situation, par exemple, d'un jeune paysan aujourd'hui qui doit commencer à s'installer, qui doit démarrer dans cette profession.
Alors il faut bien voir que le jeune qui s'installe est obligé de suivre un certain itinéraire. S'il n'est pas venu au monde tout habillé, riche, il doit, pour commencer, emprunter. Il ne peut pas s'installer autrement. Il va voir la banque, le Crédit Agricole, qu'on appelle à tort mutuel, qui n'est qu'une banque, c'est la première du monde d'ailleurs, et la banque lui impose directement une surface minimum, un type de production, et des contrats avec une firme, qu'il s'agisse de coopérative d'ailleurs ou de firme privée, ne change rien. Il entre forcément dans la mécanique, dans une mécanique qui fait qu'il sera même dépossédé de la direction de son travail. Il lui faudra produire comme lui indiquera la firme, et il aura le revenu qu'on voudra bien lui laisser.
Vous voulez dire que l'image du paysan, maître sur ses terres, maître dans son champ, est une vieille image périmée.
Seul maître à bord après Dieu, ce n'est sûrement ni vrai pour les paysans ni pour les marins. Je pense que c'est totalement fini, on est entre les mains du monde de l'argent.
Vous avez l'impression d'une profession étranglée par le crédit, par les firmes agroalimentaires, par...
Absolument, et je prends un tout petit exemple qu'on pourrait développer plus. Lorsque les paysans ont été condamnés à... pour gagner tout simplement leur vie et péniblement, ça n'empêchait pas un certain nombre de faire faillite, de mettre des hormones dans les veaux, ce qui donnait une marchandise douteuse à tout point de vue et dangereuse.
Un exemple dont tout le monde se souvient.
Et c'est nous-mêmes qui l'avons dénoncé en portant plainte. Lorsqu'ils ont été amenés à faire ça, ce n'est pas qu'ils voulaient polluer, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas de revenus, ils avaient des pertes quand ils ne faisaient pas ce qu'on leur ordonnait de faire.
C'était Bernard Lambert en 1981, donc syndicaliste agricole, cofondateur de la Confédération. Est-ce que ça a beaucoup changé finalement depuis? En écoutant cet extrait, ça vous fait quoi?
Je ne sais pas trop si ça a beaucoup changé, je ne pense pas. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je préfère justement être dégagé de ce genre d'engagement, d'accréditation. Parce qu'après, on est obligé de répondre souvent à des contraintes. Mais par contre, le faire tout seul, le chemin est beaucoup plus long. Parce que quand on n'est pas né fils d'agriculteur, qu'on n'a pas les terres, le tracteur, etc., qu'il va falloir éventuellement se le financer, se le payer un jour, et qu'on ne veut pas passer par la banque pour ne pas travailler pour la banque, qu'on veut essayer de rester libre, c'est compliqué. C'est très compliqué.
Ok, là, tu vois, approuver.
Non, mais je pense que... Alors, on a toujours des cas exceptionnels. Et puis, ce type de... Moi, j'ai connu Bernard Lambert. Il parle d'une agriculture qui était une agriculture dans l'ouest de la France, dans le centre de la France. Ici, c'est un peu différent. C'est un tout petit peu différent. Mais les grands principes sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, on sent très bien une autre agriculture en train de naître par les différents mouvements et par les gens qui sont autour de la table. Mais objectivement, l'agriculture majoritaire en France, ce sont des jeunes agriculteurs qui sont souvent des fils de paysans, qui sont obligés d'emprunter de plus en plus. Quand on va en Bretagne, on voit des usines à production de poulet ou de porc. Quand vous sortez de là, si vous avez un minimum d'humanité, vous devenez végétarien pour votre vie. Quand on voit les terres en Beauce, c'est une catastrophe. Ce sont des terres qui ne vivent plus, etc. Donc on est toujours dans ce modèle-là, est toujours dominant, même si le modèle qu'on préconise est en train de monter. On voit bien, alors dans le midi de la France un peu plus vite qu'ailleurs, mais on voit bien qu'une agriculture biologique ou une agriculture différente est en train de naître. Mais le monde de la finance et le monde des phytosanitaires et l'agroalimentaire est encore très présent dans la grande majorité de l'agriculture française.
Jérôme Laplaine, oui. Vous êtes membre de l'ADR et vous contribuez à aider les nouveaux paysans qui veulent s'installer. Quelle marge de manœuvre on peut avoir quand on s'installe aujourd'hui ?
Aujourd'hui, sur ma ferme, j'accueille un certain nombre de stagiaires en formation agricole. Et depuis une dizaine d'années, j'ai une dizaine de personnes qui sont installées en maraîchage de biodiversité, viande directe, etc., etc. Un peu sur le modèle ou sur l'inverse de ce que j'ai fait sur la ferme, peu importe. Mais au moins, ils sont pris sur une base de quelque chose. Et je dirais que ça... cette montée en puissance de jeunes qui ne sont pas issus de l'agriculture, c'est eux les paysans d'aujourd'hui et de demain. Et que c'est là-dessus qu'il faut se... Moi, je suis un peu optimiste à ce sujet parce que autour d'Aubagne, on en installe depuis 5 ans, on en installe un par an. Et c'est énorme.
Donc, et ils arrivent à rester sur la durée
Ils arrivent à rester sur la durée. Souvent, c'est des gens qui ont fait autre chose de leur vie précédemment et qui ont une réflexion sur leur activité nouvelle qui permet d'amener des nouvelles pratiques, des nouvelles consciences, des nouvelles choses sur les techniques, sur les circuits de vente, etc. Et la plupart du temps, les gens s'en sortent plutôt bien, même très bien.
Mais je pense que Aubagne est un exemple exemplaire, aussi bien sur la dynamique des paysans que de la collectivité. En tout cas, pendant un moment, elle a voulu le faire. Moi, je suis persuadé, alors là, je pars en tant que maire, c'est que Si un maire, si les maires, parce que c'est dans l'intercommunalité que ça devrait se jouer, mais si les maires se mettaient vraiment au bout de la, autour de la table, et moi je vois malheureusement défiler plein de jeunes qui sont de bonne volonté, qui sont souvent pas des fils de paysans, qui ont et la formation, etc., et qui ne trouvent pas le foncier, et pour moi ça fait partie du rôle de la SAFER, bon, grand débat, mais c'est un autre sujet, ça fait partie du rôle des élus. C'est-à-dire que si un élu, si les élus sur un territoire disent « bon, ça c'est une terre agricole », ne vous faites pas d'illusion, pendant les 100 prochaines années, elle restera agricole, et qu'il n'y a pas de la spéculation derrière, etc., et que même elle se mouille, que les collectivités se mouillent un peu financièrement pour pouvoir installer les gens, on y arrivera. Et je pense que les élus ont un rôle énorme pour, surtout en ceinture verte, de faire installer les gens. Mais malheureusement, ils ne sont pas encore assez mobilisés autour de ça.
La pression foncière est très 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 forte et que, enfin, justement, il faudrait que ça parte de décisions politiques parce que malheureusement, quand on est isolé, c'est compliqué de s'affranchir de tout ça pour avancer. Hein.
Est-ce qu'il y a assez de débouchés quand on s'installe en bio ou en raisonné ou en local pour vendre après ? Ou est-ce qu'il y a une surproduction au contraire de...
Moi, je pense pas qu'il y ait une surproduction, bien au contraire. Enfin, surtout si on reste dans son petit périmètre et qu'on chante certains circuits qui sont, pour moi, nauséabonds et, enfin, en tout cas, périlleux, comme la grande distribution, et qu'on arrive... Moi, je connais quelqu'un dans la commune d'Aubagne, Rémi Clairin, à la ferme Ravel, et il se débrouille très, très, très bien. Il est chez lui, il a son point de vente, les gens viennent à lui, et il travaille lui aussi en permaculture, et il fait très, très, très bien. Et les gens sont très contents de venir... voir son exploitation, acheter à manger chez lui, et le créneau est là. Moi, j'ai pris un autre créneau, je préfère travailler en direct avec les restaurations, avec les restaurateurs, mais il y a plein d'angles de vue possibles.
Le marché, je pense qu'objectivement, le marché est devant nous. Il n'y a pas de problème fondamentaux. Je veux dire, les gens qui font des produits de qualité, s'ils vont dans les circuits courts, je pense qu'objectivement, aujourd'hui, le marché me semble extrêmement important. Il faut peut-être l'organiser, il faut peut-être éviter de tomber dans les travers de la grande distribution, mais le marché, il y est. Il faut faire matcher le marché, les producteurs et les consommateurs, mais le marché, il y est.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, d'autant que maintenant, les surfaces de revente de bio considèrent qu'à partir du moment où ils s'installent, ils sont rentables tout de suite. Donc ça veut dire que même les paysans le sont, et les gens qui font de l'achat-revente pour le sont aussi. Moi, je voudrais lever un amalgame que vous avez dit plus de deux fois déjà, ou trois fois. Je suis désolé.
Allez-y.
Mais qu'il ne faut pas mélanger l'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique.
Ah non.
Hein, que ça m'horripile. L'agriculture raisonnée, ce n'est pas raisonnable.
D'accord. De toute façon, la raison appartient à chacun. Donc,
oui, ça dépend ce qu'on met derrière.
Chacun met son curseur où il veut, alors que dans le bio, il y a vraiment un cahier des charges que vous respectez ou pas. Si vous ne le respectez pas, vous en sortez.
Oui.
Alors que dans le raisonné, chacun fait un peu ce qu'il veut. Il dit, j'ai une grosse attaque d'acariens, je vais mettre avec raison un peu de produits de synthèse. Non, ça ne veut rien dire.
L'agriculture raisonnée, c'est quelque chose qui a été inventé par les boîtes phytosanitaires quand on a inventé l'agriculture biologique, quand on a développé l'agriculture biologique. L'agriculture raisonnée, pour parler sur le plan médical, c'est quand vous allez voir Toubib, il a souvent un grand livre qui s'appelle Le Vidal devant lui et qui lui dit il faut prendre trois pilules dans tel truc, etc. Mais l'agriculture raisonnée, c'est quoi? C'est un agriculteur qui a un index phytosanitaire devant lui et qu'on lui dit il faut cinq jours avant mettre autant de doses et tu la mets. C'est ça le raisonnement. Mais ça, c'est pas un raisonnement biologique. C'est on empoisonne les gens. Non, mais c'est pas un raisonnement. C'est complètement différent. Et moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut absolument pas les mélanger. L'agriculture raisonnée est une très mauvaise imitation de ce que serait une agriculture intelligente.
Alors, Richard Abba, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, puisqu'on nous le dit toujours, ah oui, mais le bio c'est cher, c'est réservé aux riches et aux bobos. Moi, je suis dans l'abeille, mais pour les maraîchers, ça parle plus pour les maraîchers, c'est que les herbes indésirables, on ne va pas dire les mauvaises herbes, hein, une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on ne connaît pas encore les propriétés, mais les adventices, il y en a beaucoup, donc il faut de la main d'œuvre pour les enlever. C'est tellement facile de balancer du désherbant. Et puis, quand vous passez le certifito, qui est un certificat, une petite épreuve pour pouvoir acheter aujourd'hui même du soufre ou du cuivre, on vous fait passer une petite formation. Et puis, on vous dit, de toute manière, les produits phyto, ils se dissolvent dans la matière organique, c'est-à-dire dans les 30 cm du sol. la partie l'humus. Hein. L'humus, comme dit Rabi, la racine du mot humus, c'est la même que la racine du mot humain. Hein. C'est ce qui vit dans le sol. C'est ce sont les micro-organismes qui font le travail du sol. Or, dire, et moi j'ai passé le certificat, donc j'ai entendu dire, mais de toute façon, les produits, le désherbant, ça se dissout dans la matière organique. Ça, c'est vite éluder le problème. Et ce sol, c'est ce sol vivant qui permet d'éviter les engrais. Pourquoi on met de l'engrais ? Parce que les sols sont morts et que si on n'en met pas, ça vit pas. Et les sols sont morts, on le voit quand il y a des grosses pluies, quand il y a des orages et qu'on voit sur les routes des coulées de boue et des coulées de terre parce que les sols ne retiennent plus la terre. Alors que dans la forêt, ça, il n'y a pas de problème, ça se fait bien.
Donc on est bien d'accord que tout le discours est biaisé par ce complexe agro-industriel qui, justement, quand il dit que les produits phyto se dissolvent dans l'humus, si tant est que c'est le cas, c'est encore plus grave. Parce que c'est justement dans cette couche-là que les plantes se nourrissent. Et contrairement à ce que croit le complexe agro-industriel, les plantes ne se nourrissent pas que de trois éléments, la potasse, le phosphore et l'azote. Il leur faut du zinc, du fer, du manganèse, du cuivre, de l'argent colloïdal, tout ça, dont les plantes ont besoin pour se nourrir, pour être fortes, pour être belles. Et qu'ensuite, quand elles nous offrent leurs fruits ou leurs légumes, on les mange et nous-mêmes on s'arme. Ça nous évite ensuite d'acheter des cures de A à Z avec tous les compléments alimentaires et toutes les vitamines dont on a besoin normalement, qu'on ne trouve plus dans les aliments parce qu'ils sont dénués de sens. On mange des tomates dans la grande distribution qui n'ont jamais voulu être tomates et tout le reste qui va derrière. Donc tout ça a été... parce qu'aujourd'hui, ces gens-là se réclament de l'agriculture conventionnelle. Les agriculteurs conventionnels, ils sont autour de cette table. C'est des gens qui sont les héritiers des premiers semeurs de mille, qui se sont arrêtés, qui étaient sont devenus des semi-sédentaires, parce que jusque-là, c'est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qu'eux se sont revendiqués de l'agriculture conventionnelle, et ensuite du raisonné. Ils ont encore métamorphosé le mot, changé le mot pour faire accepter de ça de tout un chacun. C'est une escroquerie.
Il y a une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'on n'apprend plus aux jeunes agriculteurs, peut-être que maintenant on y revient, ce que c'est qu'un sol. Vous avez un couple, les époux bourguignons, qui ont créé leur propre labo d'analyse microbiologique des sols, le LAMS, qui eux, donc, sont des anciens de l'INRA, et qui disent très bien qu'on n'apprend plus aux ingénieurs agronomes ce que c'est qu'un sol. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on sait qu'un sol, c'est comme nous, quand on est dit « Ah, vous avez de la fièvre, eh bien, vous prenez tel produit ». Et imaginez que vous rouliez en voiture, que votre voyant d'eau chauffe, vous êtes à 130 degrés, vous allez voir le garagiste, et le garagiste dit « Oh, pas de problème, tu débranches le voyant, hein, ça y est, ça... » Mais vous direz « Mais il est fou, ce mec !» Mais ça viendrait à l'idée de personne de débrancher un voyant. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nous, quand on a de la fièvre ou quand on a quelque chose? On prend un produit qui a été répertorié dans le Vidal, comme disait Mekal, ou il te manque de la potasse ou quoi, et on ne regarde pas l'aspect holistique, l'aspect global. Et un aliment est un vecteur, est un support d'énergie. Ce qu'on prend dans l'aliment, c'est l'énergie qu'il y a dedans. Si on mange un aliment qui a été trafiqué ou qui a été arrosé de produits de poison, eh bien cet aliment est mort. Et on s'aperçoit qu'on perd de la vitalité. Et quand on mange de la viande, c'est pareil. Avant, quand ils tuaient un cochon ou quoi, ils le faisaient avec respect. Mais quand on met nos animaux dans des abattoirs, stressés et tout, les animaux, les mammifères, éprouvent des émotions. Et on mange de la peur, on mange peut-être de la haine aussi. Et on s'aperçoit qu'on a des problèmes de santé. Donc ça aussi, en bio, on peut vérifier la vitalité d'un aliment par les cristallisations sensibles. Et c'est prouvé. Il y a une école d'agrobiologie à Beaujeu, dans le Rhône, qui fait ça. Donc, et par la cristallisation sensible, on peut voir la vitalité d'un aliment. Donc, on sait aujourd'hui que la matière n'est pas inerte, la matière est animée, ce sont des amas d'énergie, des photons, les quarks, et tout est en mouvement. Donc, on peut vivifier aussi un aliment, une eau peut être meilleure qu'une autre, tout ça, le miel contient 17% d'eau en moyenne. Donc, c'est pareil, vous mettez un pot de miel ou n'importe quel aliment près d'un téléphone portable ou d'un four à micro-ondes, vous dévitalisez. Ça a été prouvé par un Japonais qui s'appelait Masaru Emoto, qui s'est amusé, entre guillemets, à photographier les cristaux d'eau gelée. Et l'eau garde l'information qu'elle a reçue. Donc ça, c'est important. Donc ça, ce sont des moyens scientifiques aujourd'hui qui permettent de vérifier la vitalité d'un aliment. Et selon qu'on mange vivant ou mort, eh ben, on sera en bonne santé ou pas. On a le choix.
Pierre Gentil, vous êtes chef, mais du coup de l'autre côté de la chaîne de production, mais vous travaillez avec des producteurs locaux, bio. Comment vous choisissez Qu'est-ce qui vous importe le plus ?
En fait, je voulais rebondir sur le couple Bourguignon, en fait, qui sont quand même des gens qui sont qui amènent pour moi qui ne suis pas paysan, qui suis voilà, juste je prends, je choisis et je transforme. Mais en fait, il y a aussi, on ne parle pas de l'agronomie, ce qu'a apporté l'agronomie, c'est-à-dire qu'on a oublié le terroir, en fait. Un terroir, c'est un espace de tant de kilomètres carrés qui est assez c'est incroyable ce qui se passe à 3 km à la ronde, les choses changent en fait. Et en fait, on a voulu un peu zapper tout ça, quoi. Et la France, qui a quand même qui a le côté, on a les Alpes, on a des plaines, on a de l'océan, on a tous les climats. Et en même temps, on a voulu faire une agriculture pour la généraliser, en fait. Et là, on revient sur le truc, c'est que sur la permaculture, on redevient sur du très local, sur ce qui se passe à une échelle micro, quoi. Et ce que défend le couple Bourguignon, c'est on a voulu faire croire aux gens qu'on pouvait utiliser les mêmes méthodes, les mêmes produits sur n'importe quel terroir, sur de la bosse, tout ça. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a 50 années à zapper, en fait. On revient sur qu'est-ce que faisaient les gens avant, quoi.
C'est un peu le principe de la permaculture, de reprendre des...
Oui, enfin, c'est, mais en tout cas, d'être, que ce soit la permaculture ou d'être bio, c'est d'être respectueux. Après, dans le bio, moi, je pense qu'il y a très, enfin, évidemment et heureusement que ces gens-là ont ouvert le chemin. Après, je suis contre le bio-intensif, parce que celui-là, il correspond surtout, justement, à servir la grande distribution qui a perdu des parts de marché à un moment donné et qui cherche à les récupérer parce qu'ils ont besoin de cet argent. Après, évidemment que la permaculture existe aussi parce qu'il y a le bio, parce qu'il y a des pionniers qui ont ouvert la voie et qui ont permis que d'autres s'installent. Et alors après, moi, c'est pareil, je fais partie de ces gens qui n'étaient pas formatés par l'agronomie, parce qu'aussi quand on va dans ces écoles d'ingénieurs agronomes, c'est là où on vous apprend à faire ça. Après, il faut être très très fort pour être des gens comme Claude et Lilia Bourguignon et prendre le contre-pied de tout ça. Comme moi, je connais un maraîcher belge qui est fils de maraîcher et qui lui a réussi à prendre le contre-pied de ce que ses parents faisaient depuis et ses grands-parents. Ça c'est compliqué à faire. Parce que après, c'est plus facile peut-être pour des gens comme moi qui arrivent d'un autre milieu et qui du coup s'installent. Et comme l'a dit M. Lalanne tout à l'heure, c'est de changer. De changer le paradigme, c'est plus facile.
Changer le paradigme, on reviendra peut-être après cette question et sur celle que vous avez soulevée de la grande distribution, un peu tous à la fois.
Sauvage, ouvre tes bras.
Manger bio, manger local, c'est le thème de cette deuxième émission aux grandes tables, enfin pas aux grandes tables, à l'épicerie éphémère créée par les grandes tables au 25 rue de la République. Donc autour de moi, toujours cinq invités, tous d'accord entre eux quasiment. C'est ce qu'on se disait pendant la pause musicale. Alors on en a parlé un peu du côté politique de l'alimentation. Michael Latz, vous êtes élu, donc quand même vous êtes complètement dans le politique. J'aimerais vous faire écouter un deuxième extrait sonore. Cette fois, c'est André Gorz, donc journaliste et philosophe politique et grand penseur de l'écologie. C'était en 1991.
L'écologie, c'est un rapport, c'est un changement radical et fondamental des rapports de l'homme, bien sûr, à la nature, mais aussi à lui-même,
et avec les
aux autres, et à ce que est ou doit être la société, certes. Et donc, c'est une nouvelle culture. Et vous ne pouvez pas imaginer une reconversion écologique, c'est-à-dire une restructuration de notre appareil de production en vue d'avoir, non pas plus et moins bien, mais moins, mais mieux, de consommer moins tout en vivant mieux, parce qu'on consomme autrement et qu'on travaille autrement. Vous ne pouvez pas avoir cela sans engager une politique globale au service d'un paradigme écologique qui va simplement de vous occuper de la préservation de l'environnement. Une politique écologique est nécessairement une politique anticapitaliste, une politique qui cherche à limiter le champ de la consommation marchande et des échanges marchands.
Donc c'était André Gorz, pour lui une véritable pratique écologique et forcément anticapitaliste. Alors aujourd'hui, la production actuelle avec l'importance des grandes surfaces, est-ce qu'on n'est pas revenu de cette idée? Enfin, même si à l'époque elle n'était pas majoritaire.
Bon, je pense que Pierre Rabhi aurait dit la sobriété heureuse. C'est exactement le même concept. Moi, personnellement, je pense que fondamentalement, c'est vrai. Et je regrette beaucoup que les partis politiques... Bon, l'écologie c'est cantonné pendant très longtemps dans un parti politique. Bon, maintenant, tout le monde est aussi bien à droite qu'à gauche. Tout le monde fait de l'écologie, etc. Je pense que... c'est vrai que je pense fondamentalement qu'il faut changer le système. Mais ça, c'est la vraie révolution et je crois qu'elle est absolument nécessaire parce que moi, je vais souvent en Afrique noire. Quand on se rend pas compte de l'écart de consommation et que si un jour tout le monde se met à devenir aussi fou que nous en termes de consommation, ça sera une catastrophe. Et on parlera tout à l'heure, j'imagine, de l'alimentation, parce qu'il y a des expériences dans les cuisines, dans les cantines, je pourrais vous faire part de choses. Moi, ce que je pense, c'est que fondamentalement, si on veut transformer, si on n'est pas arrivé à faire la révolution de la sobriété heureuse, qui est pour moi le vrai travail de fond, mais si on est dans le système, Je ne comprends pas pourquoi les partis, et notamment notre nouveau président de la République, ne mettent pas une... Pour moi, le capitaliste, il fait fructifier des moyens de production et des hommes. Et il essaie d'avoir la meilleure rentabilité possible. Et l'impôt sur les sociétés est censé représenter la solidarité et le retour. Et pourquoi on n'invente pas, en France, en Europe, une imposition sur les sociétés écologique, importante. Le gars qui a une entreprise qui fonctionne très bien et qui remplit un certain nombre de critères écologiques, etc., il a son impôt sur les sociétés qui est diminué de 50%, l'entreprise qui bug. Et ça va changer la vision des chefs d'entreprise et ça va obliger les chefs d'entreprise d'intégrer l'environnement comme l'un de ses facteurs de production. Et moi, je suis moi-même, par ailleurs, chef d'entreprise dans d'autres secteurs, et je fréquente beaucoup de monde d'entreprise. Je pense que tant qu'on n'aura pas compris qu'en mettant en place une vraie fiscalité mais sévère environnementale, eh bien, on ne transformera pas le capitalisme. Je ne sais pas si on y arrivera, mais parce que le capitaliste, il a intérêt de faire fonctionner son capital le plus rentable possible. Et si l'impôt le pénalise énormément, eh bien, il intégrera le facteur de l'environnement comme si on peut espérer de rendre vertueux le capitalisme. Mais ça, c'est un autre débat philosophique.
Mais du coup, même tout le débat autour du bio, par exemple, est intégré dans les débats capitalistes, dans le sens où, finalement, même les grandes surfaces en font un produit marketing. Là, il y a eu récemment une enquête du FC Que Choisir qui montre que les marges sont doubles pour les produits bio que pour les produits non-bio.
Oui, alors je pense qu'il faut faire attention dans les mots. Moi, je pense que les grandes surfaces, bon, c'est clair qu'ils ont des ressorts capitalistes, mais là, on est dans la société de consommation. Hein, et bon, tout à l'heure, on parlait du coût de revient des bio, etc. On s'aperçoit que, bon, c'est vrai qu'il est logique qu'un produit bio qui est un bio responsable coûte plus cher qu'un produit purement industriel, etc. Que le consommateur doit également... et il est prêt. Il y a une étude qui vient de sortir qui montre qu'en Suède, les gens sont prêts à payer d'une manière sensible un peu plus cher pour le truc. Bon, après, le problème, c'est le degré, mais les consommateurs deviennent de plus en plus conscients. Le problème, c'est que la société de consommation est en train de s'emparer du bio et risque de le déformer. Et c'est à nous, en tant que gardiens du temple, sans... Alors moi, j'ai pas envie de dire que pour faire une agriculture comme par le passé, parce que moi, je considère que les paysans dans mon village, ils représentent l'agriculture de demain et pas celle de hier. Et que ceux qui font l'agriculture aujourd'hui, ils représentent l'agriculture de hier. Donc l'agriculture de demain, elle nécessite que les consommateurs comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe, mais elle nécessite aussi que les paysans gardent aussi un certain nombre de principes et défendent un certain nombre de principes, notamment d'une agriculture très familiale.
Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur... La différence de coût entre l'agriculture biologique et puis industrielle. Et je voudrais qu'on ramène un petit peu à la réalité. La réalité, c'est qu'en Bretagne, avec les sols pollués, avec les excès qu'il y a eu en Bretagne, il n'y a plus d'eau potable dans le sous-sol. Et ça, c'est un coût qui n'est pas rajouté sur les aliments qu'on consomme, mais c'est un coût sociétal qui est extrêmement fort et qui coûte très cher à la société. Et si on rajoutait tous ces coûts-là induits sur les produits industriels, traités, etc., on aurait une différence complètement inversée entre le coût du produit en bio ou pas bio. Voilà. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que... donc moi, j'ai été militant longtemps, je suis toujours à la Confédération paysanne, et je considère que les paysans qui sont un peu... qui sentent un peu quelque chose d'un peu particulier, ils arrivent à donner une étincelle à la société qui permet de bouger les choses de façon durable et profonde. Je pense par exemple aux AMAP, où il y a eu une première fois un premier panier qui a été distribué à Aubagne. Et aujourd'hui, il y a énormément de consommateurs qui consomment de cette façon-là. Ça donne une porte d'ouverture à tous les gens qui veulent s'installer, tous les jeunes qui veulent s'installer en disant il y a au moins ce débouché qui permet que, etc., etc. Et que l'étincelle qu'on fait passer dans l'éthique qu'on met sur notre métier, elle est mille fois colportée par les gens qui nous suivent. Et c'est très important.
Si on faisait payer aux paysans qui polluent le coût de la dépollution, l'agriculture biologique coûterait beaucoup moins cher. Et ça serait logique. Et en plus de ça, si on faisait payer aux empoisonneurs les maladies qu'il y a derrière, on multiplierait. La France serait en agriculture biologique, parce que c'est la logique d'être en agriculture biologique.
Et puis il y a une logique aussi au fait que ce soit plus cher, c'est que la prise de risque est plus grande. Parce que justement, on n'éradique pas la vie à tout prix. Donc il y a une multitude de vies autour de vos plantes ou autour de votre élevage qui fait que bah, il peut se passer, y avoir une attaque de maladie, d'acariens. Cette année, par exemple, c'était très compliqué de faire des tomates, parce que de par le réchauffement, parce qu'il fait chaud, il a fait chaud très tôt, il y a eu des attaques de trips monstrueuses. Et si vous ne traitez pas, eh ben, alors après, c'est le principe aussi de ne pas faire une monoculture. Si vous êtes très diversifié, ben moi cette année j'ai perdu sur les tomates, mais j'ai fait beaucoup de haricots verts, j'ai fait beaucoup de courgettes, et je ne suis pas dans un seul format. Et ça permet aussi de s'y retrouver. Parce que si vous êtes...
La ratatouille a changé un peu de forme.
C'est ça.
Mais c'est vrai que cette question du prix est assez importante quand même pour l'agriculture bio, parce que ça parlerait au plus grand nombre aussi si c'était un peu moins cher.
Évidemment.
Mais il y a des systèmes qui permettent de que ce soit un peu moins cher.
Vous pensez aux AMAP?
Je pense aux AMAP, et moi je le dis très clairement. Les AMAPiens, donc les gens qui consomment mes paniers, qui consomment les légumes qui sont dans les paniers, partagent avec moi les risques de production. Donc au moment où j'ai... Moi, contrairement à toi, j'ai eu pas mal de tomates cette année. Au moment où il y a eu beaucoup de tomates, les paniers étaient remplis avec énormément de tomates. Et puis des moments où c'est moins... ils mangent différemment, mais ils ont conservé des tomates, ils ont fait des plats, etc., etc. Et quand on fait un bilan économique factuel sur les kilos qui ont été distribués en moyenne sur une saison, je suis sûr qu'on a un coût qui est plus bas que l'agriculture conventionnelle. Mais c'est une approche un peu particulière où le partage du risque, il n'est pas simplement sur nos épaules à nous. Et quand il y en a beaucoup, on en donne beaucoup. Et quand il y en a moins, eh bien, on fait comme on peut.
Et le consommateur est impliqué, oui.
Il faut dire aussi une chose, c'est qu'on est en Europe et on n'a pas tous les mêmes taux horaires de main-d'œuvre. Et l'agriculteur français, quand il paye quelqu'un, il paye au SMIC, à minimum, à 9,67 €, quelque chose comme ça, de l'heure brute. Alors qu'en Espagne, ce n'est pas le même prix. Au Maroc, ce n'est pas le même prix. Les avions, maintenant, coûtent plus grand-chose. Donc, il y a de la marchandise qui vient du Maroc. Il y a des roses qui viennent du Kenya. Il faut savoir que les roses qu'on achète sur le marché, elles viennent du Kenya et du Bénin, parce qu'il y a un climat. Donc, comment peut-on comparer, alors qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux de garantie sociale? L'Europe a été faite pour faire une concurrence entre les peuples. Si on mettait tout le monde au même niveau salarial et qu'on faisait un rattrapage, eh bien, il n'y aura peut-être pas les mêmes écarts de prix. Et puis, à partir du moment où vous faites que de la tomate ou que de la courgette, et que vous arrosez, vous n'avez plus de main-d'œuvre, vous avez des gros tracteurs, vous avez vous êtes obligé de marcher dans un système. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient passer en bio aussi. Il y en a qui sont prisonniers. Et quand vous êtes dans une locomotive qui file à 200 à l'heure, vous ne prenez pas un virage à 90 degrés. Donc, malheureusement, il faudra aussi aider ces gens-là à changer, parce qu'il y en a qui veulent changer. Et je voudrais revenir maintenant sur les abeilles, puisque je suis apiculteur. Les abeilles ont besoin d'avoir un bol alimentaire très varié, ce qu'elles avaient avant. Avant, il y avait des essaims dans la nature. Avant, les vieux, ils avaient des ruches dans des troncs d'arbres. Ils noyaient les abeilles parce qu'ils en trouvaient dans la nature. Il y avait des essaims sauvages. Et puis, il y a un siècle, on a inventé la ruche à cadre mobile qui permet de garder, donc de pas tout casser les cadres, la cire. Et on a fait une apiculture beaucoup plus rationnelle. Et de là, on a pu commencer à bouger, à faire de la transhumance. Avant, les ruches, il y a dans toutes les fermes, c'était 10, 15 ruches, et puis c'était leur réserve de sucre. Ils sucraient avec du miel. Voilà. Aujourd'hui, les agriculteurs, n'ont plus de ruches. Et puis ceux qui font de la culture intensive, ils pourraient plus, de toute manière. Et puis ils sont dans un système où ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est la politique agricole commune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PAC, qui est décidée en haut à l'Europe, à Bruxelles, détermine la couleur des paysages. Et puis demain, si on leur dit « vous arrachez tout, plantez des cacahuètes », eh bien, ils feront de la cacahuète. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre du prix de leurs produits. Ils sont sous perfusion. Et à partir du moment où on est sur perfusion, il suffit de fermer la perfusion et le gars, il meurt. Donc ça aussi, il faut le dire. Donc les abeilles, elles sont aussi victimes de tout ça. Parce qu'elles n'arrivent plus à trouver leur bol alimentaire dans la nature. Ou alors, il faut aller dans des coins sauvages. Ici, en PACA, on a la chance. Mais dans l'ouest, dans le sud-ouest, où ils étaient sur le tournesol, avant, ils faisaient des rendements de 100 kg à ruche, ils sont tombés jusqu'à 25 kg. Et il fallait qu'ils rachètent 80%, qu'ils refassent 80% de leur cheptel. Mais il y a des gars qui ont arrêté, il y en a qui sont suicidés aussi. Parce que quand vous voyez chaque année que vous recommencez à zéro, vous ne pouvez plus supporter ça.
Michaela, justement, un virage à 90%, c'est presque ce qu'a fait Corence, finalement, dans les années 90. Pourquoi, comment ça s'est fait, ce revirement sur une quasi-totalité d'agriculture biologique sur votre commune? Enfin, la commune où vous êtes maire, plutôt.
Écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je suis agronome. J'ai été formé par quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est René Dumont. Et moi, je me rappelle qu'en 1974, lorsqu'il s'est présenté aux élections présidentielles, j'étais tout jeune, j'étais à l'agro, en dernière année à l'agro, et quand il a pris, devant la télé, devant le monde entier, il a pris un verre et il a bu, il a dit que nos enfants ne pourront pas boire de l'eau, c'est clair. Moi, je me rappelle que ça m'avait beaucoup marqué symboliquement. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, même si j'ai eu l'occasion d'être dans le monde des phytosanitaires et me rendre compte de la gabegie de ce truc, dans les années 90-95, parce que j'étais en contact de ce monde, je me suis rendu compte qu'on nous menait vers le mur. Et c'était le début du Roundup, c'était le début des OGM, de la vache folle, etc. Donc quand je suis devenu maire, je suis même moi-même passé en bio, et j'ai proposé à tous les paysans de mon village de passer en bio. Alors tout le monde dit « Ah, c'est extraordinaire », mais ça a été très très facile. Le truc le plus dur qui a été, c'est qu'on a été la risée de tout le monde. Parce qu'on oublie ça, mais 95-97, ça fait 20 ans, et tout le monde prenait les paysans de Corence pour des bobos, pour des mecs qui étaient complètement décalés. Aujourd'hui, quand on voit... Bon, c'est vrai que c'est la viticulture qui est la principale, mais il y a plein d'autres cultures. Il y a des apiculteurs, il y a des maraîchers, il y a des éleveurs de chèvres. La moyenne d'âge des paysans dans mon village est de 35-40 ans. C'est que des jeunes. Le conseil d'administration de la coopérative, il n'a pas 40 ans de moyenne d'âge. Et c'est l'agriculture de demain. Et ça a été... Alors, ça n'a pas été aussi compliqué que tout le monde veut croire. Ça a été facile. Et d'une période où tout le monde a rigolé de nous à cette époque-là, maintenant, je pense que les paysans de Corence ont montré que, c'est bon, comme d'autres, comme ce qui s'est fait à Aubagne, comme les AMAP. Bon, moi, j'ai connu Daniel Villon, pour ceux qui s'en rappellent, qui avait été fait les premiers AMAP. Tout le monde rigolait d'eux à l'époque. Et aujourd'hui, ça devient un modèle de consommation. Donc... je pense qu'il ne faut pas avoir peur, comme disait Mao Tse-tung, d'être un petit poisson rouge qui nage à contre-courant.
Est-ce que ce serait possible, rien qu'à l'échelle du Var ou même de la région PACA, d'étendre le modèle de Corence?
Mais c'est qu'une question de volonté. Ce qui est anormal, c'est que tout le monde ne soit pas en bio. Alors, encore plus en Provence. Bon, quand on est dans des agricultures un peu dans le Nord, etc., bon, là, se posent d'autres problématiques. Mais on parlait tout à l'heure de rentabilité. Aujourd'hui, quand vous allez en Beauce, pourquoi ça ne marche pas la Beauce? Parce qu'ils font que du blé. Mais si tous les ports et tous les élevages qui sont en Bretagne étaient répartis un peu tout le monde, on aurait de la matière humique, on aurait etc. Et on serait dans une agriculture beaucoup plus intelligente. Et en Bretagne, aujourd'hui, les centres de gestion démontrent que les fermes qui ont 50-60 hectares, qui sont en bio depuis 10-15 ans, eh bien, elles sont plus rentables que les fermes qui sont en monoculture. Parce que la bio entraîne d'abord des revenus qui viennent quand on est sur une exploitation. Alors là-bas, on est très fort dans la polyculture. Quand on montre qu'une agriculture est holistique, c'est-à-dire qu'elle prend tout, que l'animal sert et que la terre est vice-versa, etc., ce qui est plus difficile à faire en Provence. Mais on montre que ces modèles-là sont les bons modèles. Et la FAO, c'est l'Organisation mondiale des Nations Unies pour la nourriture, elle montre aujourd'hui, elle écrit des choses qui étaient complètement iconoclastes il y a 10 ou 15 ans. Elle dit aujourd'hui, la seule façon de nourrir la planète dans l'avenir, c'est de l'agriculture bio. Parce qu'elle permet des petites exploitations, elle permet la terre de ne pas s'user, etc. Et il faut rêver, notamment de l'Afrique, où il y a encore beaucoup de paysans, de petits paysans, qui restent en bio. Parce que le jour où l'Afrique deviendra complètement industrielle, ce qui est devenu le cas beaucoup en Amérique latine et dans l'Asie, eh bien, ça sera la fin des haricots, parce que les bonnes terres vont disparaître. Et c'est le modèle. Il faut vraiment se dire aujourd'hui qu'il faut qu'on change d'urgence de modèle et qu'on revienne à une agriculture en France, à une agriculture familiale et locale et bio. Il est anormal que les pouvoirs publics, aujourd'hui, n'imposent pas ceux qui polluent et n'aide pas ceux qui ne polluent pas. Et on aurait une inversion des coûts d'une façon extraordinaire, parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est plus difficile de faire de l'agriculture bio, etc., ça coûte plus cher. C'est vrai, mais c'est parce qu'on n'intègre pas les autres coûts. Mmh. Et le jour où on intégrera les autres coûts, on dira, mais comme c'est pas cher de manger bio.
Moi, je voudrais rebondir un peu là-dessus. La question, c'était pourquoi tout le monde n'est pas en bio en Provence. Dans mon cas, j'ai fait 5 ans d'études agricoles dans lesquelles on nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'avec un problème, il y a ce pesticide ou cet insecticide, etc. Et il m'a fallu 7 ans, moi, de pratique conventionnelle pour sentir que c'était plus du mur et de me dire non, mais je vais dans une impasse complète. Et donc, en fait, moi qui étais un petit peu motivé pour utiliser des extraits auxiliaires déjà, pour faire attention à l'humus du sol, etc., il m'a fallu 7 ans pour oublier ce que j'ai appris en 5 ans. Alors que j'étais volontaire et j'avais déjà ce tournant d'esprit. Et donc, dans la région, c'est évident que des paysans, il y a le poids aussi de l'oncle qui regarde. Ah, toi, tu passes en bio. Il y a encore cette image-là qui fait des freins tout le temps. C'est aussi une démarche personnelle, quoi.
Oui, et puis je dirais que, pour être encore plus brutal, il y a 30 ou 40 ans, le paysan, bon, souvent il n'était pas formé, mais il y avait un technicien de la Chambre d'agriculture, il y avait un CETA, il y avait un GDA, il y avait quelques techniciens des coopératives ou des négoces d'approvisionnement qui passaient. Donc le gars, l'agriculteur, il pouvait avoir un peu, se faire une idée. Mais aujourd'hui, au nom du libéralisme, tout ça a disparu. Le seul mec que l'agriculteur voit, c'est le vendeur de phyto qui lui transfère de la technicité par hasard. C'est le même problème pour les médecins. Aujourd'hui, les seuls trucs qu'ils voient, c'est visure médicale qui lui raconte la vie et qui lui disent qu'il faut manger dans tel problème. Pour l'agriculteur, c'est la même chose, parce que c'est exactement... C'est deux mondes qui se ressemblent énormément et qui sont soumis aux mêmes industries pharmacies qui étaient... Avant, c'était de l'agro-pharmacie, maintenant, on les a séparés, mais ça procède de la même chose. Donc, aujourd'hui, il faut se battre pour que le libre examen des paysans revienne. Parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se libérer de l'idéologie dominante. Et c'est urgent.
Et en plus, je pense que l'agriculture conventionnelle a un vrai coût. Parce que pour pouvoir passer ces produits, il faut du temps, il faut du matériel qui coûte cher. Et vous achetez des produits qui coûtent très cher. Et tout ça réuni, si vous le supprimez, ça vaut bien peut-être la perte que vous avez certaines années sur vos cultures. Et qui sera peut-être une dîme que vous donnez à la nature. Hein, c'est un retour des choses. Et c'est peut-être mieux parce que pour le coup, la nature vous le rendra. Parce que vos sols continueront à vivre. Vos nappes d'eau, si vous avez des bassins ou des nappes phréatiques, seront encore potables. Ce qui n'est plus le cas dans l'Ouest, comme le disait tout à l'heure. Et tout ça réuni, on parle souvent que de choses pécuniaires. On dit oui, le bio c'est plus cher. Mais en termes sociétals, la conventionnelle coûte beaucoup plus cher.
Alors, nous, parce que là, on parle agriculture, on va revenir à apiculture. Quand on forme, oui, non, mais on est tous liés, de toute manière. Le problème, c'est qu'on se croit tous séparés alors qu'on est tous reliés. C'est qu'on est tous sur la même branche et on est en train de la couper. En apiculture, quand on forme, il y a un lycée agricole, hier, où on forme les jeunes, jusqu'à peu de temps encore, le modèle dominant, pour avoir une surface minimum d'installation, pour être reconnu professionnel, il fallait voir minimum la demi-SMI, la demi-surface, c'était 200 ruches, puisque normalement, c'est 400 ruches, la SMI, la surface minimum d'installation. Ça a changé depuis 2 ans où c'est devenu la surface minimum d'activité. Donc il faut minimum 200 ruches. Mais on peut vivre avec moins de 200 ruches, simplement on fait pas que du miel. À ce moment-là, on fait des produits transformés. C'est notre cas. Nous, on n'a pas un gros cheptel et puis on a eu de la perte parce que en bio, c'est vrai que c'est pas évident de maintenir l'infestation du parasite qu'on appelle le varroa, qui est un petit acarien qui est venu de Java, d'Indonésie, où là-bas les races d'abeilles locales s'en débarrassaient, mais chez nous elles n'y arrivent pas. Et puis il faut du temps pour qu'elles y arrivent. Là, en plus, maintenant il y a le frelon asiatique, ça c'est encore un autre problème. Et puis il y aura peut-être un autre coléoptère qui est en train d'arriver par l'Italie, mais je vais pas en parler ça. Donc les abeilles, elles ont beaucoup de problèmes. Leur immunité baisse à cause de ce varroa qui transmet des virus, qui injecte des substances immunodépressives, donc qui font baisser l'immunité. La perte de fécondité chez les abeilles aussi, chez les mâles, moins 30%, comme chez les humains. Donc ça aussi, ça fait que nos reines, elles tiennent moins longtemps. Et puis, pour vivre aussi, puisqu'on est devenu des professionnels, on est obligé de faire de la transhumance pour faire plusieurs miels, parce qu'il faut répondre à une demande. Donc, quand on fait de la transhumance, on les fatigue aussi, nos abeilles. Et puis, nous aussi, on se fatigue parce qu'on roule la nuit. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dans le monde agricole, mais c'est un métier qui n'est pas facile, parce que le patron, il est pas, c'est pas nous les patrons, c'est là-haut, c'est la météo. Voilà. Et on subit aussi la politique donc, des cultures environnantes. Alors, encore une fois, en PACA, on peut faire beaucoup de miel, enfin, beaucoup de variétés de miel, mais il y a des années, depuis 2 ans, là, c'est pas évident. Et avec la sécheresse, on a de plus en plus de difficultés. Il faut, quand on forme les jeunes aussi, moi, quand on a des stagiaires, on leur dit, moi, je leur dis, endettez-vous le moins possible, les gars. Autofinancement, hein. Parce que nous, il y a 15 ans, on a acheté du terrain, on a pu l'acheter à un prix correct, on a construit une grosse mielerie, parce qu'il y avait tous les signes, donc on s'est endetté. On a passé par une banque éthique, c'est bien, ils nous ont prêté, alors qu'une autre banque ne nous aurait pas prêté. Mais après, quand vous avez une mauvaise récolte, ben là, vous commencez à stresser, là. Et vous dites, oula, comment je fais pour payer les mensualités? Et là, ben là, on se met à travailler de plus en plus, et puis bon, nous, on fait une moyenne de 70 heures par semaine. Et on travaille le week-end, parce qu'il faut faire des foires. Et ça, ça vous bouffe la vie, et ça vous ronge aussi tout. Et on peut, alors on arrive à tenir, mais ça demande beaucoup de travail et aussi il faut expliquer aux jeunes qu'il n'y a pas qu'une monoculture, il peut y avoir une autre manière de travailler avec, en faisant beaucoup de choses. Seulement il faut avoir de la créativité, puis il faut travailler la foi, je veux dire la confiance, quoi, hein, parce que là vous êtes mis à rude épreuve.
De la foi et de la créativité. Ouais. L'heure tourne, on va peut-être parler aussi de la gastronomie et l'alimentation, parce qu'on est quand même dans un restaurant. D'ailleurs je vois Emmanuel Perraudin qui prépare les mezzés de ce soir et de toute la semaine ici au 25 rue de la République. Donc on va parler gastronomie, notamment avec toi Pierre, juste après cette petite pause musicale.
Thank you. La sauce, c'est de la flotte. Pourquoi tu l'as pas fait réduire?
Je vais bouillir 4 heures.
Ah bah 5 heures, 6 heures, je m'en fous. J'ai déjà dit 20 fois. Quand la viande est cuite, tu la tiens au chaud. Et la sauce, tu la fais réduire à part, dans une casserole. À part, dans une casserole. Je l'ai dit ou je l'ai pas dit?
Oui.
Vous êtes une fine gueule, vous?
Ah oui, à mes heures, oui, bien sûr.
Oui. Eh ben, vous me comprenez, alors? Mais c'est vrai, on m'accuse toujours de râler, mais on fait tout pour ça. Et j'aime pas qu'on gâche la marchandise, moi. Vous savez pour combien j'en ai de viande ici, par mois, rien que de boucher? 100 000 balles. Et la cuisine, hein, c'est le seul art qui ne demande pas. On peut se gourer sur la peinture, sur la musique, mais sur la bouffe, pas d'histoire, c'est bon ou c'est mauvais.
C'est bon ou c'est mauvais, c'est un extrait du film, peut-être que vous l'avez reconnu certains, de Claude Chabrol, Que la bête meurt. Alors le bio, c'est forcément bon, Pierre?
Bien sûr, en fait, je pense qu'on a passé quand même une époque où le bio n'était pas aussi présent dans notre quotidien, en tant que consommateur ou en tant que cuisinier. Et on a aussi oublié une époque où on a oublié les saisons, quoi, on a oublié pas mal de choses, quoi. Et donc là, maintenant, avec le bio, les AMAP, enfin, tous les gens qui sont pas bio, mais qui sont en permaculture, qui font un travail de génie, en fait, d'artiste, On retrouve le goût des aliments. Et on a oublié, est-ce que c'était qu'une tomate crue ou cuite, hein, parce qu'à une époque, on ne pouvait plus faire de tomates cuites, parce que c'était que de l'eau, quoi. Donc là, on a un renouveau, on vit une super époque où il y a une accessibilité de ces produits, en marché quand même, en AMAP. Nous, le monde de la restauration, bon, on est toujours confronté avec des fournisseurs qui font de la grosse production, mais bon, il y en a qui... heureusement, de plus en plus de gens, de chefs, qui décident de travailler en général en connivence ou en lien direct avec des maraîchers, et avec des producteurs de vin, enfin avec, pour essayer de retrouver le goût des choses, en fait. Et je pense que ce goût-là, on l'a perdu. C'est-à-dire qu'il y a une, on a, moi, j'ai, quelquefois, il m'arrive de remanger des produits qui sont des madeleines de Proust. En fait, on dit, mais c'était ça, ce goût. En fait, on a passé une époque où on a oublié ce goût-là, quoi. Et la texture, en fait, parce que je pense que la production intensive, on a des produits qui sont plutôt morts, en fait, qui n'ont aucune énergie et qui n'ont que de l'eau. En fait, c'est comme une matière synthétique. En fait, c'est l'aile ou la cuisse, hein, la salade qui se peignait et tout ça. On y est presque arrivé, quoi.
Et vous, donc, en tant que cuisinier, comment vous cuisinez justement bio et local, enfin, comment vous adaptez vos recettes ou,
Ben, nous, on essaie de raconter une histoire. Donc, on raconte une histoire avec un producteur et avec ce qu'il fait, ce qu'il a, avec ses bons jours et ses mauvais jours, parce qu'il y a des accidents, il y a plein de trucs. Et donc, on s'adapte. Et pour nous, c'est toujours une joie de pouvoir avoir des produits qui ont une histoire, en fait, et aussi ce côté local, ce côté proche du producteur, c'est voilà, c'est cueilli quelques heures avant que ça arrive dans la cuisine. Donc ça, c'est quand même incroyable, hein, dire que c'est un privilège. Et en plus, on a maintenant la possibilité de travailler avec des prix qui sont vraiment très raisonnables, des légumes. Parce que moi, j'ai commencé la cuisine il y a 25 ans. Les légumes, c'était des garnitures. Il y avait toujours une protéine animale qui était le plat principal. Et après, autour, il y avait des légumes. Et là, maintenant, on renverse la tendance. Donc, là, maintenant, le légume est un plat en soi. Et, enfin, on ouvre tout juste les possibilités du légume, en fait.
Et c'est ce que vous explorez, vous, dans votre cuisine, autour du légume, par exemple?
Oui, en fait, voilà, de plus en plus, je cuisine des légumes ou la céréale. J'adore la viande, j'adore le poisson, mais je sais que je ne peux pas, moi, en consommer tous les jours. Je ne peux pas en avoir tous les jours pour un lieu de transformation, que ce soit un restaurant ou un traiteur. Et il faut bien faire comprendre aussi qu'on ne peut pas avoir tous les jours cette matière-là, quoi. Et je pense qu'il faut qu'elle soit festive, en fait. Il y a des endroits en province où les boucheries étaient ouvertes deux fois par an, quoi. Le reste, c'était que des légumes et des céréales. Et il y avait l'agneau une fois ou deux fois par an, et c'est tout, en fait. Et je pense qu'il faut aussi travailler sur ça, et grâce aux tendances, l'explosion, en fait, de pouvoir avoir accès à... Je parle des pois chiches, je parle des capres, en fait, c'est une explosion. On veut dire que le riz en Camargue, tout devient des produits de haute qualité, en fait, et qui sont des produits basiques. Et pour nous, c'est une chance inouïe, quoi. Mais je pense qu'il faut... Quelque chose de très important, c'est le goût des choses. Et le goût des choses, c'est à la base, en fait. C'est le bébé, c'est l'enfant, c'est comment il va évoluer, comment il va se faire son palais. Et ça, il y a eu il y a un gros travail à faire
sur les
parce qu'on parlait des cantines, et c'est clair qu'il y a, c'est énorme, quoi. C'est-à-dire que l'acte de manger, c'est l'acte le plus intime. C'est-à-dire qu'on peut pas faire manger des antibiotiques, on peut faire manger des pesticides. C'est-à-dire que la pomme est un des produits les plus pollués. C'est-à-dire que
traitement.
Voilà. Le raisin quand il est traité, c'est pareil. Donc, et on fait manger ça des enfants, c'est comme on leur donne du Roundup dans une soupe, et c'est la même chose, quoi. Et c'est ça, il faut vraiment, c'est la base, c'est la bienveillance alimentaire, elle est là, quoi, je pense que.
Et c'est pour ça qu'il faut préserver aussi les circuits courts, parce que un légume qui passe une journée dans un frigo a perdu 20% de ses nutriments. Donc en 5 jours, il n'a plus rien à donner, si tant est qu'il avait quelque chose à donner. Alors quand il arrive de très loin, il arrive dans le supermarché où vous l'achetez, il n'y a déjà plus rien, et pour peu que vous ne le consommez pas tout de suite, et encore moins que rien. Enfin, on mange presque du négatif à la fin. Donc, donc c'est pour ça qu'il faut, prioriser la proximité, évidemment, et des gens qui restent donc dans une forme d'artisanat. Et, parce que dans le bio, la question était, est-ce que dans le bio tout est bon ? En grande majorité. Après, quand on cherche à trop l'intensifier et pour rendre des parts de marché, justement, à la grande distribution, etc., je pense qu'on se leurre un petit peu. Donc, vaut mieux aller faire travailler ces petits producteurs, ces artisans que vous avez tout autour de chez vous, qu'ils soient maraîchers, apiculteurs, vignerons, que sais-je, voilà. Et là, on fera marcher l'économie locale, on fera travailler ces gens qui ont besoin de travailler, et nous, on se nourrira correctement.
J'imagine que tout le monde est à peu près d'accord autour de la table. Vous, Michaela de Sacorance, vous avez expérimenté au niveau des cantines, justement, de la pédagogie dont tu parlais, Pierre.
Oui. Alors, moi, je dirais que la nourriture est très politique. Hein, c'est vraiment... Et la manière dont on apprend à manger à nos enfants dépend de l'avenir de l'humanité. Hein, je veux dire, il est fondamental aujourd'hui, et les pouvoirs publics et les élus locaux ont une grosse responsabilité quand ils font des cantines comme elles le font, où les enfants ne mangent pas et gaspillent. Quand on pense qu'en France, on jette 30 à 35% des repas dans les cantines, c'est un déchet, mais c'est un scandale humanitaire, il n'y a pas d'autre mot. Donc, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas attention à la manière dont on nourrit. Donc, nous, dans ma commune, mais il y a plein d'autres communes qui ont fait des choses comme ça, on fait le maximum au bio, parce qu'un cuistot, il sait que le bio coûte moins cher parce que la tomate va moins fondre, les légumes vont moins fondre, la viande va être, il y a moins d'eau, etc. Donc, pour revenir sur le coût, je veux dire, je suis sûr que à l'assiette, les choses ne sont pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que quand vous jetez 30%, vous augmentez le coût. Si vous jetez plus, si vous apprenez aux enfants, bon, nous, par exemple, les enfants, on pèse chaque jour à la fin de la cantine ce qu'on jette. Et on s'est donné un objectif pédagogique de dire il faut qu'on jette moins que 5%. Donc, je veux dire, là, tout de suite, on rentre dans un autre raisonnement. Au début de chacun des repas, on explique aux enfants à la cantine qu'ils vont manger ça, qu'un paysan a produit cette courgette, l'histoire. Avec les instituts, on a travaillé sur le pois chiche. Bon, on leur fait un certain nombre de repas végétariens par semaine pour apprendre à manger moins de viande, parce qu'il est urgent d'apprendre à manger moins de viande. Je veux dire, on est dans un monde de fous. Je veux dire, quand on sait qu'il faut 7 kilos de protéines végétales pour faire 1 kilo de protéines animales, sans compter les milliers de litres d'eau qu'il faut produire derrière. Je veux dire, il est urgent d'apprendre à manger autrement. Et les collectivités territoriales ont un vrai rôle là-dessus, à accompagner des parents d'élèves, etc. Donc moi, je pense que la manière de s'en nourrir, la prochaine révolution, ça sera ça.
Je pense que tout le monde est à peu près d'accord.
Manger est un acte politique, hein, ça c'est clair.
Tout à fait.
Et justement, en parlant peut-être d'actes presque politiques, peut-être qu'on pourrait parler de la semaine bio et locale avec vous, Richard, qui commence, qui a lieu maintenant.
Oui, ça commence le 16.
Donc samedi.
Samedi, il y a une journée festive et familiale. Ça se passe à Venelle. Il y a des portes ouvertes du magasin de producteurs aussi. Donc il y aura des dégustations de vin, bière et miel et animations pédagogiques autour de la sensibilisation au bio par Agribio 13. Donc ce sera toute la journée donc, sur Venelle. Il y aura un salon nature et bien-être avec restauration et produits bio, un marché bio local, dégustation de produits locaux. Il y aura le vin, donc je ne sais pas quel jour ça tombe, le vin.
Mais le vin, c'est mercredi
prochain. Porte ouverte et découverte de la boulangerie solidaire Pain et Partage à Marseille et de sa production d'un pain bio local et solidaire. Donc cette boulangerie solidaire Pain et Partage Marseille intégrée au réseau Bousol, donc BOU apostrophe SOL, assure une production d'un pain bio local et solidaire à destination d'un panel large de clients. Donc ça, ce sera 11h. Il y aura le 22.
Il y a des choses toute la semaine, du coup, peut-être qu'on ne va pas tout dire.
Alors, je finis avec ça. Mercredi 22, à la Peine sur Yvonne, il y aura une table ronde avec l'intervention de Marc Dufumier, donc, qui est un monsieur très connu et qui intervient auprès de l'ONU, sur le rôle de l'agriculture et de l'alimentation dans la préservation des ressources aquatiques. Suite à la projection d'un film « Manger bio, c'est bon pour l'eau ». Parce que c'est vrai que si on ne mange pas bien, si on met n'importe quoi dans les stations d'épuration, ça se rejette dans les rivières et puis on aura des poissons qui seront phosphorescents. Voilà.
Donc là, ce sera l'après-midi. Les informations sont sur le site. Merci beaucoup pour cette présentation.
Mais c'est vendredi, hein, c'est pas mercredi.
Alors vendredi.
Voilà. Par contre, mercredi, donc le 20, il y aura la troisième et dernière émission de Radio Grenouille ici au 25 rue de la République. Ça portera sur plus le produit et la gastronomie. Donc on vous y invite aussi. Bien sûr, c'est ouvert à tous et le public est bienvenu. Merci beaucoup à vous cinq d'être venus au micro de Radio Grenouille et ici rue de la République. C'était un plaisir. Je vous rappelle juste qu'il y a des soirées aussi ici le vendredi et samedi. Et ce week-end, c'est l'équipe d'Angtime, Mars Blackmon et Elodie Rama qui assureront le DJ. Pour se quitter, on va se quitter avec... Ah, pardon.
Juste, il y a une fête du miel à Roquevert. Dimanche, fête du miel à Roquevert. Venez nombreux. Il y aura plein d'apiculteurs et plein de miels différents. Il y aura même des glaces au miel. Dimanche.
Il y aura des abeilles.
Ouais. Voilà. À Roquevert, salle des fêtes.
On va se quitter sur le miel, du coup. Merci beaucoup. Et sur une chanson d'Elodie Rama, City of Hope. Merci. Et merci beaucoup à Sébastien Gély, à la technique. Bonne soirée à toutes et à tous. I've been dreaming each letter of your name, winding was the past to you, dear promised land. Oh yes, concrete land, I can hear you. You got me so I'm feeling every step.